entendons qu'elle se déroule à moins de 3h30 d'avion. Et la semaine dernière, nous avons lu les premiers chapitres de la première lettre de Pierre. Nous étions tous en rond. Il faut garder cette vision que nous sommes en cercle autour du Christ, n'est-ce pas ? Ce n'est pas parce que la configuration de la salle a changé par rapport à la semaine dernière, mais la configuration de la semaine dernière nous rappelait que Jésus est au centre de l'assemblée. Mais à cause de choses techniques, pour pouvoir vous accueillir, il faut bien mettre les chaises de cette manière-là. Mais rappelons-nous cette vérité-là, que Jésus est au centre de l'assemblée. Voilà, et c'est lui qui la dirige. Voilà. Et que nous sommes appelés à nous regarder, comme disait Joy lorsqu'elle m'a appelé cette semaine. Joy me disait, ce qui est super, c'est qu'on ne se voyait pas, on ne voyait pas simplement des frères, simplement la nuque. On voyait les yeux des frères et des sœurs. Et ça, c'est important. Que nous puissions continuer à être une église comme cela, qui nous voyons les yeux dans les yeux, le cœur en face. Alors, nous avions lu le premier chapitre de la première lettre de Pierre, et en lisant, nous nous sommes rappelés cette vérité importante que nous étions ici que des étrangers et des exilés, et que notre véritable cité était dans les cieux. C'est cette vérité-là que le Seigneur a voulu nous rappeler la semaine dernière. Et puis, il s'ensuivait une série de recommandations et d'impératifs. Si vous lisez ce chapitre de la première de Pierre, une série de recommandations et d'impératifs sur la manière de mener notre vie en tant qu'étrangers et exilés dans le monde. Je les ai rappelés lors du dernier mail que je vous ai envoyé lundi. Et je demande vraiment au Seigneur d'ancrer cette vérité dans le plus profond de notre cœur. Alors oui, effectivement, nous sommes les uns et les autres en pèlerinage. Et Frédéric nous rappelait cette image, nous étions des forains, hein, des forains. C'est comme ça qu'on lit dans les vieilles Bibles, nous sommes en pèlerinage. Cet exil est le temps de notre vocation. Le temps où on peut répondre à l'appel du Seigneur concernant nos vies. De manière individuelle et de manière communautaire. Et il s'agit de faire face tout en entourant nos frères et sœurs, nos sœurs endeuillées, en leur apportant cette serviette pour sécher les larmes. Il s'agit de faire face tout en prenant soin aussi de ceux qui sont malades et qui sont fatigués. Et tout en équipant les croyants, eh bien de continuer à répondre à notre vocation, à notre appel en tant qu'Église et communauté du Christ autour de nous. Il s'agit de garder le cap, le Seigneur nous a rappelé ce matin. Et si nous sommes en exil, les uns et les autres dans le monde, c'est pour témoigner de Christ, de Jésus et de son salut. Comme Pierre le dit, pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Il y a un piège à se considérer en exil, c'est le repli sur soi-même, dans une attente passive et stérile. Seigneur, reviens, reprends-nous d'une manière ou d'une autre. Mais l'équilibre à avoir, c'est de vivre l'exil comme un envoi. Vivre dans l'espérance active de cet envoi. Alors l'exilé devient alors non plus simplement un exilé loin de sa patrie, mais devient un ambassadeur, du royaume des cieux. C'est un petit peu l'expérience du prophète Daniel, exilé à Babylone. Il se met au service du roi Nabuchodonosor, le plus grand despote que la terre ait connu à cette époque. Et il sert le Dieu des cieux, mais en même temps en servant la communauté. Jésus prie le Père concernant ses disciples. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi je ne suis pas du monde, consacre-les par la vérité, tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. L'ambassade n'est pas la seule image employée dans le Nouveau Testament pour parler de notre vocation individuelle et communautaire. Parce que la société israélienne de l'époque de Jésus était plutôt agricole, et il y a plusieurs métaphores, plusieurs images qui sont prises de ce milieu agricole dans les discours et les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ concernant notre appel, notre vocation, notre mission. Le Seigneur est comparé à un agriculteur, à un semeur, à un laboureur, à un moissonneur, à un propriétaire agricole. L'évangélisation du monde, c'est une moisson. Et il faut prier le maître de la moisson pour envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ou encore ailleurs, le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Qui sont les fils du royaume ? C'est nous ensemble qui ensemençons le monde d'espérance. Le champ, c'est toutes les personnes qui nous entourent et qui ne connaissent pas encore l'Évangile. Paul se considère lui-même comme un ouvrier dans le champ de Dieu. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Alors oui, notre exil peut être vécu comme un envoi d'ouvriers dans la moisson du maître de la moisson, chaque ouvrier à son poste. On peut diviser le travail du champ en trois phases. Il faut labourer le champ, il faut l'ensemencer pour enfin le moissonner. Mais tout travail d'un champ commence par un labour. Je me suis souvent demandé, c'est des questions que les chrétiens se posent, souvent nos questions sont sans réponse sur le monde d'aujourd'hui. Je me suis souvent demandé pourquoi Jésus était venu au moment où il était venu. Pourquoi n'était-il pas venu 400 ans plus tôt ? Pourquoi n'est-il pas venu 1000 ans plus tard ? On lit dans Galates 4, verset 4, « Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme. » On pourrait traduire aussi « à la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils. » Ou encore dans Romains 5, verset 6, « Lorsque nous étions sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » On pourrait dire que Jésus est venu au bon moment, qu'il était précisément à l'heure, ni en retard, ni en avance, qu'il était l'homme qui tombe à pic, pour d'autres références. Mais s'il est venu au bon moment, c'est que ce moment a été préparé depuis de longs siècles. Des milliers d'années de préparation, et même dès la chute, lorsque Dieu annonce à Ève, à Adam et au serpent cette espèce d'évangile avant l'heure, la semence de la femme écrasera la tête de la descendance du serpent. Il y a une délivrance. Et déjà, en ce moment de la chute, Dieu est en train de préparer le monde à la venue de son Fils. Il y a tellement de promesses qui ont été annoncées. Et on peut les lire dans des passages exceptionnels, comme dans Ésaïe, à partir du chapitre 40, ce qu'on appelle la consolation d'Israël, où le Seigneur annonce la venue du Consolateur. Le Seigneur était en train de labourer le cœur du monde. Lorsqu'on lit l'Ancien Testament, ce n'est pas simplement des petites histoires comme cela qui s'est passé il y a très longtemps. Mais c'est aussi le labour de Dieu pour préparer la venue du Christ. Et lorsqu'on lit, par exemple, l'histoire de Joseph, un innocent qui est envoyé en prison, en esclavage, pour ses frères, On peut déjà regarder comme une préfiguration de l'œuvre du Christ. Lorsque l'Ancien Testament nous présente l'agneau que l'on va sacrifier à Pâques, qui permet au peuple d'Israël de sortir libre du pays de l'esclavage, cela nous parle déjà du labour de Dieu dans le cœur des gens. Jésus va être l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lorsque je regarde l'histoire de l'Ancien Testament, ce labour de Dieu dans le cœur du monde, eh bien, je m'aperçois que même les circonstances sont finement orchestrées, de manière incroyable. Alors on les lit a posteriori, ceux qui vivent dans le présent de leur situation, ils ne voient pas que Dieu est à l'œuvre. En Michée 5, verset 2, il y a cette prophétie sur Bethléem, hein, une petite ville d'entre les villes d'Israël. Mais de là viendra un sauveur de cette ville. Et puis, dans l'Évangile, on lit que César Auguste décide d'un recensement. Et à cause de ce recensement, Marie et Joseph se déplacent de Nazareth et à Bethléem. Et Jésus naît à Bethléem. C'est incroyable quand même. Dieu a labouré patiemment la terre qui devait recevoir le Fils de Dieu. Le monde était providentiellement prêt pour la naissance du Sauveur lorsque les temps furent accomplis, au temps marqué. La naissance du Christ à Bethléem n'était pas un accident, c'était un rendez-vous, le rendez-vous de Dieu dans l'histoire des hommes. La moisson des livres du livre des Actes des Apôtres. Nous aimons lire, n'est-ce pas, les Actes des Apôtres. Et nous aimerions vivre comme les Actes des Apôtres. C'est souvent notre désir. Oh, Seigneur, si tu faisais comme dans le livre des Actes des Apôtres. C'est une merveilleuse histoire d'une moisson abondante. Mais lorsque les apôtres et les premiers disciples ont commencé à témoigner de Jésus ressuscité, la moisson était là, car le labour avait été bien préparé. Le champ était prêt et les ouvriers étaient là, répondant à leur vocation. Et ils ont simplement cueilli les fruits que Dieu avait préparés depuis de longues années. Cette récolte n'était pas le fruit du hasard ni le fruit exceptionnel de quelques apôtres. Dieu avait soigneusement préparé le terrain par plusieurs moyens. Et le réveil spirituel que nous lisons dans les Actes des Apôtres est l'aboutissement de ce processus qu'est le labour du cœur. Quels sont les moyens que Dieu a utilisés? On peut lister, si vous voulez, la révélation générale. Dieu se révèle lorsque on considère la création, les créatures. Le judaïsme de l'époque de Jésus faisait des prosélytes et des craignants Dieu. Il y avait déjà une espèce de message, alors que le monde était polythéiste, adorait les dieux grecs et romains. Il y avait ce message qui déjà préparait le cœur à recevoir l'Évangile. Le travail du Saint-Esprit dans les cœurs, bien sûr, qui convainc de péché, de justice et de jugement. Lorsque Pierre fait sa prédication, si vous lisez Actes 2 et suivant, vous voyez une prédication de l'apôtre Pierre. Mais lorsque Pierre a parlé, il est marqué qu'ils ont eu le cœur vivement touché. Le Saint-Esprit était à l'œuvre lorsque Pierre parlait dans l'assemblée. Les circonstances, les péripéties, les épreuves que Dieu orchestre de manière souveraine pour amener les hommes à réfléchir et à ressentir leurs besoins spirituels. Vous savez, j'essaye de réfléchir. Nous vivons des choses difficiles. Lorsque la première église subit le martyre d'Étienne, lorsque Étienne est lapidé, comment était l'église ? Que ressentait l'Église? C'était quelqu'un qui était un des responsables de l'Église. Lorsque Pierre est bastonné, reçu des coups de bâton à cause de l'Évangile, et qui revient, et qu'il exhorte l'Assemblée à demander au contraire, non pas d'arrêter ce qu'il faisait, mais au contraire, Seigneur, déverse en nous ta puissance pour que nous continuions à témoigner du nom de Christ. Il y avait le témoignage aussi simple et authentique des croyants. Nous en avons la preuve. Ils mangeaient avec simplicité, chacun dans leur maison. Et ça touchait le cœur, et ça labourait le cœur des gens de Jérusalem. Le témoignage simple et direct d'une vie de chrétien toute simple. La communion fraternelle avec des actes de solidarité et de miséricorde. À Jérusalem, on a mené les choses que l'on vendait pour que la communauté puisse survivre, subvenir aux besoins. Personne ne disait « ça, c'est à moi ». Et ça touchait le cœur, ça labourait. C'était en train de labourer le cœur. Alors tout cela, l'action conjuguée de Dieu, des circonstances et des hommes a contribué au réveil spirituel du premier siècle. Alors je me pose la question, aujourd'hui, dans notre situation, que fait Dieu en ce moment? A-t-il abandonné la terre? Ou plutôt, ne voyons-nous pas qu'il travaille les cœurs comme le laboureur laboure la terre? Après 2 ans de Covid, une guerre affreuse. Ne prépare-t-il pas les cœurs sans espérance pour qu'enfin ils puissent être ensemencés par l'espérance? N'est-il pas en train de lever des ouvriers dans sa moisson? N'est-il pas en train de mettre en adéquation le labour du champ du monde et la levée des ouvriers? Y aurait-il adéquation entre la faim et la soif du monde et la réponse à l'appel des ouvriers? Nous avons besoin d'un réveil, Église de Dieu. Après le décès de Manon, avant ses obsèques, les jeunes se sont réunis, ont dit « on veut prier pour la famille Buisson, pour la famille Allègre, on veut prier pour Coralie, pour Ludovic ». Et puis Hélène et moi, nous nous sommes invités à ce groupe de jeunes. Et puis on a posé la question, comment ils ressentaient les choses? Et quelqu'un a dit, mais on a besoin d'avoir de la cohérence dans notre foi. On a besoin d'un réveil. Ce n'est pas que les jeunes. Ce n'est pas que les jeunes. Dieu est en train de labourer le champ du monde. Il est en train de labourer nos cœurs aussi, les uns et les autres. Est-ce que nous allons nous lever pour la moisson? Est-ce que nous allons nous lever et vivre de manière cohérente avec notre foi? Alors il nous faut labourer nos champs aussi. Nous sommes des ouvriers dans le champ de Dieu, mais où est le champ? Il n'est pas seulement à l'autre bout du monde. Et on pense à Lily en ce moment. Et on prie pour elle. Mais le champ est autour de nous. Notre champ de mission est autour de nous. Nous y sommes, frères et sœurs, sur le champ de mission. Ce sont nos voisins, ce sont nos amis, ce sont nos collègues de travail, c'est notre famille, c'est notre église aussi lorsqu'elle accueille des personnes qui viennent de l'extérieur. Labourer, c'est retirer tous les éléments qui gênent à la compréhension de l'Évangile, c'est-à-dire mener une vie intègre, empreinte de sagesse et de douceur, qui suscite la curiosité au point que nos amis, nos voisins nous disent « Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es différent. Pourquoi tu n'agis pas comme cela ?» Labourer, c'est aussi avoir une vie qui donne soif, qui donne envie d'en savoir davantage sur Dieu. Labourer, c'est casser les préjugés sur Dieu, sur Jésus, sur la foi, sur le christianisme. Non, le christianisme n'est pas ringard, c'est pas du has-been, nous ne sommes pas des has-been. C'est s'adapter aussi aux us et coutumes de nos amis, sans concession. Mon ami Daniel Molera, il a été amené au Seigneur simplement parce qu'on lui a proposé un apéritif. Parce qu'un chrétien lui a proposé un apéritif. Vous irez voir Daniel, il vous racontera. Labourer, c'est instaurer des vraies relations avec les incroyants, à les aimer vraiment, à nous intéresser à elles, parce que l'évangélisation est d'abord personnelle et relationnelle. Si le parcours Alpha porte du fruit, c'est parce qu'il est relationnel. Être un témoin, ça commence par dire bonjour, à nous arrêter sur le pas de notre porte pour demander à quelqu'un d'autre de ses nouvelles, de dire simplement comment ça va. Alors Joy m'a interpellé une fois, Joy, je ne sais pas où tu es, tu es là. Elle m'interpelle chaque fois. Je lui ai demandé ça va, et elle me dit, j'aime pas qu'on me dise ça va. Parce que quand on me dit, est-ce que ça va, je ne peux répondre que par oui ou par non. Mais demande-moi comment s'est passée ma semaine. Ou qu'est-ce que j'ai fait durant cette semaine. Ou comment se passe ma relation avec mes enfants. Ou qu'est-ce que j'ai fait à mon travail. Des questions ouvertes pouvant ouvrir à une discussion. Merci Joy, tu peux me reprendre chaque fois. Prendre soin les uns des autres, comme il nous a été rappelé. Dire des paroles de consolation les uns des autres. Mais aussi garder le cap. Être des témoins de Jésus-Christ dans le monde où nous sommes. Le Seigneur est en train de labourer le champ du monde. Et nous sommes les ouvriers dans sa moisson. Est-ce que nous allons répondre à cet appel? Je voudrais terminer par simplement en rappelant, on avait terminé la semaine dernière en lisant 1 Pierre 2,9, je vous le relis. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. J'ai appris une chose cette semaine, c'est que sacerdoce royal a donné en latin le mot pontiférex, ce qui signifie faiseur de pont. Dans le monde, mes amis, voilà notre vocation, bâtir des ponts entre les hommes et Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et nous bénisse.